presque juif. Un podcast d'Académ par Ruben Honigman.
Je ne me suis jamais tellement intéressé à l'antisémitisme. Si des gens n'aiment pas les juifs, tant pis pour eux. En revanche, ce qui m'intrigue, ce sont les autres. Ceux que le fait juif arrête, qui y trouvent quelque chose qui leur parle, les émeut et les bouleverse. Je vais à la rencontre de ceux que j'appelle des compagnons de route du peuple juif. Ils n'ont pas d'ascendance juive, ne cherchent pas à se convertir au judaïsme et ne sont pas non plus ce qu'on appelle communément des philosémites. Ils se tiennent sur le seuil sans jamais le franchir. Ensemble, nous essayons de refaire leur chemin à l'envers, évoquer une rencontre, une lecture, un appel, démêler les méandres d'une trajectoire à laquelle rien, en apparence, ne les prédisposait. J'interroge leur choix de vie, animé par l'intuition que s'il existe un mystère juif, c'est peut-être par la marge qu'il convient de le sonder.
Bonjour, je suis Philippe Toreton, dans le podcast Presque Juif. On est au Théâtre de la Scala, dans ma loge. Et vous pouvez l'entendre par un petit bruit de fond, de spectacle et d'applaudissements.
Bonjour Philippe Toreton.
Bonjour Ruben.
Quelques jours après le 7 octobre 2023, vous avez publié un texte intitulé « Je suis juif ». C'était une sorte de cri de colère et de solidarité envers un peuple auquel pourtant vous n'appartenez pas. Alors on va essayer de comprendre d'où vient ce cri. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel milieu vous avez grandi ?
Ah oui, moi j'ai grandi dans un milieu... on va dire de français moyen. Ma mère était instite en école maternelle. Mon père, je l'ai connu pompiste, un métier qui a disparu maintenant. Ce sont des automates. On se sert nous-mêmes à la pompe à essence. Avant, il a été maçon pendant longtemps. Encore avant, il a été soldat. Alors bien sûr, le budget familial était très compté parce que trois garçons, surtout à l'adolescence, ça mange beaucoup. Donc, et on a pu faire nos études. Alors ils ont bien... économiser pour qu'on puisse faire nos études. Il y a eu quelques sacrifices de leur part, évidemment. Mais voilà, je viens d'un milieu comme ça, modeste, simple, plutôt à gauche.
Normand.
Normand, c'est important. Je suis né en Normandie. J'ai quitté la Normandie quand j'ai réussi le conservatoire. Donc, j'avais 21 ans.
On est catholique dans ce milieu ?
Pas du tout. Mon père a reçu une éducation religieuse. Il a même servi la messe. Et il chantait, paraît-il, très bien. Mais après, il a eu un rejet de ça, assez fort. Alors, est-ce qu'il s'est passé des choses avec le curé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un vrai rejet. Et ma mère n'a pas eu d'éducation religieuse, puisque ma grand-mère maternelle, j'ai essayé d'en parler, d'en mémé, mais elle avait les mains dans le cambouis de la vie. Elle n'avait pas besoin de leçons de théorie sur... comment on doit aimer l'autre et l'amour et tout ça. Elle le faisait, quoi. Donc, ma grand-mère maternelle allait à la messe quand il y avait des enterrements ou des mariages. Mmh. Et parfois, elle m'emmenait. C'est comme ça que j'ai eu une phase vers 4 ans. J'ai l'impression d'être Little Big Man en disant ça, mais j'ai eu ma phase curé aussi. Quand j'étais petit, je voulais être curé.
Quand je serai grand, je serai curé.
Ouais.
Ça n'a pas duré longtemps, alors ?
Non, pas très longtemps. Mmh. Par contre, ce qui a duré vraiment, c'est que... comment dire ça ? La spiritualité m'importe énormément.
Ah oui.
Mais j'arrive pas à croire, en fait. Voilà.
Vous allez au caté ?
Non, jamais. Non, j'ai jamais foutu les pieds au catéchisme. Mon frère aîné, oui, il a eu un petit enseignement religieux. Parfois, je me dis que j'aurais bien aimé avoir 2-3 bases. Mmh. Voilà.
Mmh. Vous avez une grand-mère catholique que vous n'aimez pas ?
Bah, oui, ça ne se passait pas très bien. Disons que ma grand-mère paternelle, Germaine, elle était très croyante, mais elle était assez sévère, assez rude. Vous savez, c'est comme la phrase de Brel, elle est terrible, mais il ne faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Bah, elle, c'était ça. Elle se vivait comme une bourgeoise, alors qu'elle eut une vie très modeste. Hein, très... Ouais. Mais elle était plus bourgeoise que les bourgeois. Et donc, il y avait quelque chose comme ça de rigoriste. Et ma mère s'est affranchie de ça. Elle a fait un petit effort en allant pour sa belle-mère, en inscrivant mon frère aîné au catéchisme. Mmh. Elle l'a baptisé. Moi, j'ai été baptisé aussi. Et puis pour mon petit frère, elle a dit « Merde, je fais ce que je veux, en fait. Je n'ai pas à faire ça pour plaire à la belle-mère, en fait. Voilà. »
Il n'y a pas l'ombre d'un juif dans votre entourage? Vous en connaissiez aucun, enfant?
Enfant, non. Non, non, parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de communauté juive dans un petit Queville, là où j'habitais. Moi, c'était des communautés portugaises, mais catholiques. Très catholique. Et donc, il y avait plein de... Tous mes potes étaient portugais. Maintenant, j'ai beau réfléchir un nom à consonance juive dans ma scolarité, je n'ai jamais eu ça.
Il y a ce nom que vous portez, Torreton. Voilà. Quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit, il y a peut-être quelque chose d'espagnol, Torreton.
Oui, voilà. C'est une... c'est Sano de Pues de Perpesac, une maquilleuse, non, une coiffeuse sur un film, c'était Capitaine Conan, qui m'avait raconté ça, que... Ça pouvait, Torreton, ça pourrait avoir des origines espagnoles, enfin hispaniques, on va dire, peut-être aussi juives dans la mesure où la tour, il y a beaucoup de noms juifs qui, les commerçants assez aisés se faisaient construire une tour adossée à leur maison. Et plus la tour était grande, plus le commerçant montrait aux autres qu'il était fortuné.
Mmh. Signe extérieur de richesse.
Voilà, mais tout ça est très hypothétique.
Alors, est-ce que vous vous souvenez à quel moment le fait juif a fait irruption dans votre vie ?
Ah, mais parfaitement. Il y a eu des événements, l'un plus traumatique que l'autre. La première fois, alors je ne sais pas si c'est venu, dans quel ordre c'est venu. Il y a eu ce feuilleton qu'on appelait « Graines d'ortie » à la télévision, avec le générique chanté par Sylvie Vartan, qui racontait l'histoire d'un petit garçon pendant la guerre. Et il y a une scène, alors c'est à l'époque, les feuilletons, c'était avant le journal de 20h, donc on mangeait devant le feuilleton et le journal de 20h. Arrive une scène où les mômes sont à l'école, et là, il y a des miliciens qui arrivent avec un officier allemand qui demande à ce que tous les garçons baissent leurs pantalons et leurs culottes, leurs slips. Et moi, je regarde ça et je dis à ma mère, mais pourquoi ils font ça? Elle dit, parce que les juifs étaient circoncis, donc c'est comme ça qu'on reconnaissait les juifs. Alors déjà, je lui dis, mais pourquoi il faut reconnaître les juifs et tout ça? Bon, elle m'explique, pendant la guerre, j'étais minot, hein, vraiment. Il y a eu ça. Et moi, j'étais circoncis. Ah. Pour raison médicale. Je ne décalotais pas, donc il fallait couper. Et puis, donc, j'étais circoncis.
À quel âge vous avez été circoncis ?
Vers 5 ans.
D'accord.
Voilà. Et donc, je dis, comme moi, alors. Donc, j'aurais été raflé. Et elle me dit, non, toi, tu aurais eu un papier du médecin prouvant que tu es français et que c'est... que ta circoncision est médicale et pas religieuse. Mais pour moi, c'était trop tard. J'étais déjà à Drancy.
Vous vous êtes identifié à ce garçon?
Ah ouais, ouais. Pour moi, je faisais partie du convoi, quoi. J'étais... dans ma tête, voilà, il y a eu ça. Et puis, je me souviens, un mercredi après-midi, ma mère était partie faire des courses et j'étais tout seul dans l'appartement. Donc, je vais avoir peut-être 7-8 ans. Et mon père avait deux gros livres d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, des livres noirs, très grands. Alors, je suis monté sur une chaise, j'ai pris ces livres, j'ai ouvert, et je suis tombé sur les photos de l'armée américaine et de l'armée soviétique au moment de l'ouverture des camps, parce que le mot « libération » ne correspond pas très bien à ça, et des photos horribles, des montagnes de cadavres, des gens complètement... des squelettes à peine vivants... des bulldozers qui poussent les cadavres dans des fosses. Et je me souviens, j'ai lâché le livre et je suis resté prostré dans ma chambre jusqu'à ce que ma mère arrive. Et quand elle est arrivée avec ses sacs pleins de courses, je lui ai dit, mais regarde, regarde. Et elle me fait, ah, mais pourquoi t'as vu ça? J'avais dit à ton père qu'il fallait pas. Et voilà. Ça a été mon...
Donc ça a été une sorte de réplique de la première scène.
Ouais.
Donc ça a lancé une sorte de chaîne d'identification à ses victimes, en tout cas.
Oui, absolument. Et petit à petit, j'ai fait connaissance avec le trauma familial de la Seconde Guerre mondiale, avec ma mémé qui a perdu son petit frère, donc un résistant qui faisait partie du réseau de Surcouf, et qui a été tué le 6 juin 1944. Et son père, à la mort, quand on lui a appris la mort de son fils, est devenu muet, mutique. Il ne parlait plus à personne. Et sa femme, mon arrière-grand-mère, donc, avait demandé à un voisin de lui tenir compagnie quand il allait changer les bœufs d'herbage ou quand il... parce qu'elle avait peur qu'il fasse une bêtise, quoi. Et donc il avait son garde-chiourme, son voisin qui l'accompagnait. Et puis un jour, donc 3 semaines après ça, donc on est presque au début juillet 44, en allant justement changer les bœufs d'herbage, il y a une patrouille d'Allemands qui passe et le voisin lui dit on va se cacher et puis on va les laisser passer parce qu'en ce moment ils sont un peu ils sont un peu piquants, quoi. Et ils se cachent dans le fossé. Et ben mon grand-père s'est levé, il a pris un bâton et il est allé les insulter, assassins, etc. Et le voisin a entendu une rafale de mitraillette. Et il a retrouvé mon grand-père criblé. Donc ma grand-mère, en 3 semaines, 1 mois, elle a perdu son petit frère et son père. Et donc, moi, mon enfance allait quand même avec ça. Le fait que dans ma tête, j'étais parti rafler et tout ça avec mes petits camarades juifs à cause de mon zizi. J'ai passé mon enfance à trouver des cachettes. Au cas où.
Et ça vous accompagne encore aujourd'hui?
Ah oui. Oui, ouais, dans mon ancienne maison, il y avait une petite soupente qui a été aménagée pour mettre les valises. Et je me dis, si on doit se planquer, on se planquera là.
Vous avez toujours une petite planque de côté, au cas où?
En tout cas, je cherche l'endroit où on peut se cacher. De même que quand je monte des escaliers, là en ce moment, pour rejoindre mon petit studio, dès que j'ai tourné un premier virage, je me dis, en cas de poursuite, je suis à l'abri. Si on me tire dans le dos, je suis à l'abri. J'ai toujours l'occupation qui est en moi, les Allemands qui peuvent arriver, où j'irai, qu'est-ce que je ferai. Donc ça, j'en ai parlé avec mes deux frères qui n'ont pas ce souci-là.
T'es que vous?
Bah oui. C'est moi qui me suis pris ça.
Alors tout ça s'est produit un petit peu au niveau de l'imaginaire. Après, vous êtes monté à Paris. C'est à ce moment-là que vous avez découvert le fait juif réel, en fait. Vous avez fréquenté des personnes, des rencontres décisives.
Oui, il y a eu... comment dire? Là aussi, par exemple, je me souviens, quand j'étais à la Comédie Française, c'était les moments de l'ouverture, de la réouverture du théâtre du Vieux Colombier, qui a été tenu par Jacques Copeau. Jacques Copeau a été administrateur de la Comédie Française pendant la guerre. Le commissariat aux questions juives lui avait demandé de dresser la liste des sociétaires juifs de la Comédie Française. Il a traîné des pieds, il n'avait pas envie de la faire, mais il l'a faite. Heureusement, ça n'a pas abouti à des déportations. Mais il y a eu 3 sociétaires, dont le comédien Lionel, je ne sais plus, qui ont été interrogés, et leurs origines juives n'étaient pas forcément... hyper clair, il n'y a pas eu de déportation suite à ça. Mais il l'a faite. Et je me souviens d'une engueulade monstrueuse avec l'administrateur de l'époque, en lui disant, en lui montrant l'article de Libération, et en lui disant, t'as vu, c'est quand même un peu embêtant, Jacopo, il a... Et il prend ça de très haut en disant, oui, mais ils n'y connaissent rien. J'ai dit, bah, ils ne connaissent rien. À un moment donné, la question se pose, je le fais ou je ne le fais pas, ce qu'on me demande de faire. Voilà, l'histoire est compliquée. Et il ne s'agit pas de juger, de dire, ah bah, c'est un salaud parce qu'il l'a fait. Enfin, mais à un moment donné, ça nous appartient. On n'est pas obligé de devenir un résistant avec... La mitraillette anglaise à l'épaule avec le brassard FFI et prendre des risques, etc. Mais il y a plein de façons de résister, y compris de démissionner, par exemple. De dire, bah, ce sera un autre. Mais au moins, c'est pas moi. Un autre la fera, de toute façon, cette putain de liste. Mais pas moi. On peut se faire porter pâle. On a tous un ami médecin qui peut nous faire un arrêt de travail. Bon. Et donc, grosse engueulade avec l'administrateur de l'époque. Mais finalement, ils ont un peu tué le côté copeau au moment de la réouverture. Comme quoi, voilà, il y avait quand même un petit dossier. Quoi.
C'était mis sous le tapis.
L'autre chose, après, il y a eu quelques conversations où régulièrement venait « mais machin, il est juif ?» Et à chaque fois, je me disais « mais pourquoi on pose cette question-là » Moi, on ne me demande pas si je suis « mais en fait, t'es catholique ou... ?» Et puis, cette inflexion du ton quand on pose la question.
Il y a une gêne dans l'air.
Presque. Il est juif
Non, il y a un trouble.
Ouais, un petit... Alors que si c'est une vraie question, ça, c'est une question qu'on peut poser, d'ailleurs. T'es juif ou pas? Enfin, dès l'instant qu'il n'y a rien derrière, de juste de la curiosité et tout ça, elle n'a aucun problème en soi, cette question. C'est le ton et c'est parfois les circonstances. Comme, qu'est-ce que ça apporte de savoir que tel ministre ou tel metteur en scène est juif ou pas? Et c'est quoi le principe de ça? Je n'ai jamais bien compris. Et puis... non, et puis en fait, c'est...
Ça vous troublait, ça?
Oui. Ouais. Bah oui, parce que je... Finalement, dans mon petit sac à dos personnel, je portais ce mercredi après-midi affreux où j'ai vu ça, je portais graines d'ortie, je portais mon père qui m'avait raconté que voilà, il était à l'école et puis tout d'un coup, il a vu des camarades arriver avec l'étoile jaune. Il a vu le directeur, il m'a dit qu'il s'appelait Monsieur Mort de Froid, qui arrachait ses étoiles jaunes aux élèves. En disant, il se mettait à l'entrée, il les arrachait, il dit, vous les récupérerez à la fin. Mais ici, c'est l'école de la République.
Donc vous sentiez peut-être, à travers ce trouble dans le ton, dès qu'on prononce le mot juif en public, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment résolu au niveau de la société française, peut-être.
Bah oui, j'ai pensé ça. Ensuite, voilà, il y a eu l'assassinat de Bousquet. Et puis, je me suis renseigné, évidemment. En plus... j'ai participé, alors ça c'est plus tard, mais un téléfilm de Pierre Aknin sur la mort de Robert Boulin. Et on voyait bien qui s'était Bousquet. Hein. C'est un immense salopard. Voilà, Mitterrand l'a toujours protégé. Enfin, c'est dérangeant. Et puis après, bah, y a eu la rencontre avec la mère de mes enfants. Voilà. Et de cette famille dont le père est juif. Et puis, y a eu d'abord une première amie dans la vie que j'avais avant la mère de mes enfants. Et c'est la première fois que je me retrouvais à fêter la nouvelle année, la Pâque juive. Et
vous avez fait un CDR de Pessah.
Voilà. Et je trouvais ça... j'aimais bien. Mais à chaque fois, j'étais le plus sage, le moins bordélique. Le plus discipliné. C'est souvent le non-juif de la table qui veut tout faire bien, qui veut... Et les autres, c'était, mais non, mais pourquoi tu dis ça? Mais attends, j'ai un appel, je peux pas, vas-y, fais la prière ou pas. Mais oui, mais si tu fais ton téléphone, qu'est-ce que tu veux? Et ça s'engueule. Et puis, toi, t'es là, mais on peut pas se concentrer un petit peu sur ce qu'on est en train de. Là, c'est quand même, je sais pas, le désert, tout ça, les herbes.
Vous étiez bien dans ces ambiances de
fête juive? Moi,
j'aime bien.
Même quand c'est le bordel, même quand personne sait ce qu'il faut dire exactement. C'est toujours une foire d'empoigne dans ce que j'ai vécu, en tout cas. Mais en tout cas, ça interroge. Ça relie au sens... On relie au sens... On ouvre le bouquin et ça relie les êtres entre eux. C'est... alors, je ne saurais jamais le dire, je crois que c'est lors d'une rencontre avec un président des États-Unis il y a longtemps, avec un premier ministre israélien. Il a dit, mais vous êtes un petit pays... tout petit, nanin, etc. Il dit, mais interrogez votre peuple américain et demandez-leur ce qu'ils ont mangé sur le Mayflower, etc. etc. Bah, nous, on sait ça. Nous, on sait ce qu'on a mangé, on sait ce qu'on a vécu, on sait comment ils s'appelaient, on sait comment, etc. Parce qu'on a perpétué ça. Petit peuple, oui, petit pays, oui, mais on sait d'où on vient. On sait exactement d'où on vient. Et ça m'a toujours... Ça m'a toujours ému, ça. Et d'avoir cette conscience-là de faire peuple, de faire nation. Et ça, je trouve que c'est ce qui nous manque bien aujourd'hui en France. Cette conscience de faire peuple. Et voilà. Puis après, j'ai envie de dire...
Vous ne le trouviez pas dans le catholicisme, ça?
Ah non. L'entretien d'une mémoire... par le cérémonial, par des rendez-vous comme ça dans l'année, c'est la mémoire d'un peuple. Chez les catholiques, c'est la mémoire d'un bonhomme qui s'appelait Jésus. C'est pas le peuple. Voilà.
Alors précisément, cette idée de faire peuple chez les juifs, est, cette notion aussi-là d'unité... C'est ce qui suscite souvent le rejet et la haine envers les Juifs, précisément.
Oui.
Chez vous, ça a produit le contraire.
Ah bah oui.
Et de l'amitié.
Bah oui, ouais, de l'empathie, de l'amitié, de la curiosité, puis de l'admiration aussi. Pour moi, c'est mon admiration, elle est dans cette transmission mémorielle depuis la nuit des temps. Récemment, la construction de ce pays, parti de presque rien, pas grand-chose en tout cas.
Vous avez été en Israël?
Oui, deux fois, et je vais y retourner peut-être bientôt. Mais,
comment vous avez trouvé ce pays?
Rude, mais passionnant. Il y a un côté pionnier, il y a un côté pas far west, mais far east. Il y a des... ça pourrait être filmé par Wim Wenders parfois. Il y a des tout un coup, une petite station-service. Il n'y a rien avant, rien après. On est en plein désert. Et puis, on entre. Et puis là, on peut manger, on peut parler. Il y a 3-4 personnes là. Des pick-up garés à l'entrée. Enfin, c'est rude. On sent qu'on a bossé ici.
D'ailleurs, c'est un caillou que vous avez ramené d'Israël.
Oui, de Masada.
Un caillou de Masada.
Oui. J'ai volé.
Ça, c'est pour le côté pratique. C'est votre fréquentation un peu des pratiques, des temps juifs, des fêtes juives. Il y a aussi l'étude dans le judaïsme, l'étude des textes. Je me suis dit en préparant cet entretien que ne serait-ce que par votre métier, comédien, vous êtes aussi dans l'interprétation.
Mais c'est ce que je me dis aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il appartient à chaque juif d'interroger le texte. Et de s'interroger, et de ne pas nommer. De ne pas nommer Dieu, par exemple. Le fait de se poser des questions, je trouve ça tellement humble. Et de laisser la réponse, on ne sait pas. Mais à force de se poser des questions, on finit par cerner des choses. Mais de ne pas être, présomptueux. C'est-à-dire de ne pas s'aventurer sur le chemin de la réponse. Or, j'ai l'impression que la plupart de nos contemporains ont des réponses à plein de choses. Mais souvent, je dis ça avec mes confrères comédiens et comédiennes. le personnage, penser personnage, c'est penser réponse. Mmh. Si tu penses au texte, tu transmets le texte, le but c'est qu'il soit entendu et compris. Mmh. Et c'est le spectateur qui va faire de toi le personnage, puisque tu le dis, et en plus tu le dis bien. Mmh. Donc je crois en toi. C'est pour ça aussi qu'on a les jetons, parce que on a beau avoir répété tout ça et puis être sûr que le spectacle plaît, mais c'est pas pour ça que ce soir ça va bien se passer. Mmh. Donc il y a ce côté de pas avoir vraiment prise sur l'instant présent, le moment où je vais le dire. Mmh. C'est ce qui fait tout le sel de ce métier. C'est comme en musique le jazz. Le jazz, c'est le moment où ça se fait. Mmh. Avant, c'est pas du jazz. Et après, ça devient de la musique qu'on peut réécouter. Mais le jazz, c'est ce qui se passe là. C'est cet instant-là. Et... ouais, moi, ça me fascine, ça.
Il y a cette fascination, il y a ce cheminement auprès des Juifs. Pour autant, vous n'avez jamais songé à devenir juif.
On m'en a dissuadé. Mm-hmm. On m'a dit que c'était un long parcours. Et puis, il y a eu cette phrase du Dalai Lama qui m'a bien plu, qui, en fait, nous recommandait, dites-nous, on ne veut pas que vous deveniez bouddhiste. Mm-hmm. Mais écoutez ce qu'on dit. Écoutez-nous. Enfin... Et apprenez de ça, ou pas, d'ailleurs. Ça m'intéresse, oui. Mmh. Mmh. Mais que Richard Gere devienne bouddhiste, comme dans la chanson de Souchon, en fait, on s'en fout, nous, les bouddhistes. Enfin, c'est pas tant mieux pour lui s'il est content comme ça, mais c'est pas le but. Mmh. Le but n'est pas de convertir. Et finalement, je me suis appliqué par rapport à la religion juive, c'est de dire que, est-ce que ça a un vrai sens pour moi, ou est-ce que ce chemin empathique, il n'est pas suffisant, et je prends ce qu'il y a à prendre, et puis je suis là, on est là, ensemble, et puis malheureusement, on a eu cette lutte commune pendant plus de 2 ans, là, pour les otages, après le 7 octobre 23, voilà, le but, c'est d'être là.
Ensemble. Ça aurait été presque le pas de trop, en fait, de devenir juif, ça aurait pas été vous ?
Ça aurait pu être une partie de moi, mais... oui, il y a quelque chose en moi qui ne... Je trouverais ça très, 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 très volontaire de ma part. Mmh. Et donc, si c'est très, très, très volontaire, c'est pas naturel, donc autant pas le faire, quoi. Et puis cheminer l'un à côté de l'autre, puis c'est déjà pas mal.
Est-ce qu'il vous est arrivé, par vos positions, contre l'antisémitisme, de défense d'Israël, de vous faire des ennemis ?
Ah bah oui. Ah bah oui, clairement. J'en suis même arrivé à la conclusion que défendre Israël fait de moi un mec d'extrême droite, déjà. Mmh. On en est arrivé là.
Aux yeux des autres.
Ouais, ouais. De certains. Mmh. Alors, pas les plus futés, hein, mais oui. Mmh. Non, c'est délicat. Mmh. Avec des gens que j'aime, j'ai soigneusement évité le débat. Mmh. Même quand le débat... on le provoquait devant moi. On me dit, mais oui, mais là, par rapport à cette tribune que j'ai co-signée il y a quelques temps...
Contre la reconnaissance de l'État palestinien ?
Oui. C'est ça ? Elle n'était pas contre, justement. Ouais. C'est là, le... mais pas maintenant. Ouais. Pas comme ça, pas tant qu'il y a des otages encore vivants et des cadavres à récupérer. Sinon, c'est dire, bien ouais, en fait, le Hamas. Et puis en plus, le Hamas n'a aucune envie d'un État palestinien. Donc tout ça a été absurde.
Alors il y a une autre espèce de juif auquel vous vous intéressez depuis quelque temps, c'est les Indiens Sioux.
ouais. Les Amérindiens en général m'interpellent, mais les Sioux, je trouve que récemment, je suis plongé dans un gros bouquin que j'ai pas fini encore, mais c'est cette nation Sioux qui était vouée à disparaître puisqu'ils étaient assez tardivement en contact avec les colons. Mmh. Donc, ils n'ont pas eu l'arme à feu. Mais du coup, ils n'ont pas eu l'alcool non plus. Du coup, ils n'ont pas eu les maladies. Ils n'ont pas eu toute cette compromission, finalement, avec l'arrivant, le colonisateur. Donc, ça a pu être un handicap au début. Mais en fait, étant dans les grandes plaines, ils ont pu se rassembler, devenir une nation, et finalement, être prêts à affronter le blanc avec une certaine force. Et quand le fusil est arrivé enfin chez eux, il y avait toute une nation forte derrière. Et j'aime bien cette symbolique-là que ce qui nous constitue peut paraître une faiblesse, mais est une richesse. En cela, je trouve que Israël en est la preuve absolue. Et de ce pays qui est décidé, enfin qui était projeté depuis longtemps, mais qui est décidé après la Shoah, après la fin de la deuxième guerre mondiale, et qui dès sa création est attaqué, qui s'en sort et qui gagne toutes les guerres, et qui construit, et qui irrigue, et qui fait pousser des choses là où rien ne poussait. Et
grâce à sa fragilité première.
Grâce à sa fragilité première, oui. Grâce à ça. Voilà. Ils ont retroussé les manches. Et ça, moi, c'est ce qui m'avait frappé en allant en Israël. C'est ce travail accompli, ce courage-là. Le kibbutz, moi, c'est quelque chose qui me fascine aussi. Alors, même si, entre le kibbutz d'origine, etc., mais moi, c'est ce qui m'a fait chialer le 7 octobre, c'est que les plus gros massacres ont été faits dans des kibbutz qui, justement, étaient près de la bande de Gaza, mais pas pour rien, parce qu'ils étaient ouverts à une solution à deux États. Ils offraient du travail aux Arabes, etc., dans les plantations. Donc c'est non seulement l'horreur, mais c'est la bêtise absolue. Enfin, c'est c'est affreux.
Qu'est-ce qui manquerait au monde sans les Juifs?
On pourrait faire la liste de tous les Juifs célèbres, inventeurs, musiciens, écrivains, etc., etc. Mais moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que ça devient... On peut penser que ça devient élitiste. Donc finalement, on réveille l'antisémitisme avec ça. Mais moi, c'est une conscience qui manquerait. C'est une conscience, une façon d'être, une façon de s'interroger, justement. C'est ça qui manquerait beaucoup. Ce peuple qui accepte l'incertitude. Que seraient devenus les Juifs s'ils avaient toujours vécu sur leur terre? Peut-être une nation bedonnante. Peut-être. La diaspora a musclé le cerveau, a musclé le souvenir, a donné une force comme ça, absolument pas visible, mais totalement puissante. Et donc, s'il n'y avait pas les Juifs, moi, il me manquerait cette exemplarité-là. En tout cas, de cette force, oui, de cette force.
Merci, Philippe Torreton.
C'est déjà fini. Merci à vous. Merci, Ruben.
Presque Juif, une production Academ. Conception et présentation, Ruben O'Neillman. Prise de son et montage, Isaac Payon.